Eh bien, bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin?
Bonjour.
C'est bien, on est content. On va fêter l'anniversaire d'Olivier ce matin, que Dieu le bénisse au milieu de nous. Et voilà, on va lire dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Jésus, je te demande de bénir les paroles que je vais apporter afin que chacun puisse bien identifier qui est qui et que chacun puisse se mettre du bon côté avec toi, en toi, dans la forteresse. Merci Jésus. Amen. Verset 14, chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Il faut que vous sachiez que le mot talon, le talon, c'est un mot donc en hébreu qui a sa racine, qui a une racine qui signifie Jacob. Et Jacob, c'est Israël. C'est quand même intéressant. Donc voilà, c'est... C'est pourquoi il faut qu'Israël existe afin que le Messie puisse venir. Vous comprenez ça? Vendredi, je vous parlais d'écouter Dieu dans le silence. Et dans le monde sans Dieu, et même chez les chrétiens, tout est organisé pour satisfaire la nature humaine, en fait, tout est fait pour satisfaire la nature animale. Vous savez que l'apôtre Paul dit que celui qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Christ fait partie de la nature animale, avec ses désirs, ses instincts préhistoriques, il faut bien le dire, et primitifs et sauvages, voilà. Toutes les règles, toutes les normes et les critères d'éducation sont conçus en fonction de quoi? Eh bien, de tirer la couverture à soi, d'accaparer, de prendre, de gagner, de profiter. Voilà. C'est ça. Et c'est dans le monde entier. Voilà pourquoi il y a tant de disputes, de rivalités et de conflits. Voilà, je vais être le calife à la place du calife. Mais quant à ce qui concerne Israël, c'est pas un problème politique, c'est pas un problème humain, c'est pas un problème religieux même, c'est un problème spirituel. C'est la semence du serpent contre la semence de Dieu, c'est-à-dire contre le Messie, contre Jésus-Christ, contre celui que les Juifs attendent. Ils pensent qu'il va venir, nous savons qu'il va revenir. Et tant qu'Israël n'existe pas, eh bien, le Messie ne peut pas venir. C'est pourquoi ils veulent tous détruire, tous ces pays d'alentour veulent détruire Israël. Mais c'est aussi, maintenant on voit les nations, toutes les nations, et même certains chrétiens commencent, ils sont anti-sionistes, anti-Israël, voilà. On va venir là-dessus. C'est impossible que les choses aillent bien, parce que le problème ne peut pas être réglé autrement que spirituellement. C'est pas la religion, je le répète, c'est pas la politique, c'est pas l'argent qui vont arranger les choses, parce que tout a pris naissance au début de l'histoire humaine, Adam, Ève et le serpent. Alors je ne vais pas revenir sur la semence du serpent et expliquer pourquoi je crois qu'il y a une semence du serpent. La Bible dit la descendance de la femme et la descendance du serpent. La descendance de la femme, c'est qui? C'est Jésus. Le seul homme qui est né que par une femme, c'est Jésus. D'accord? Donc voilà, la postérité de la femme, c'est Jésus et tous ceux qui continuent avec lui. C'est-à-dire tous ceux qui le suivent, tous ceux qui marchent avec lui, qui sont nés de nouveau. La postérité du serpent, elle persécute les fils de Dieu. Et les fils de Dieu, les chrétiens, quand ils sont charnels, ils font l'œuvre du diable et ils se manifestent. Ils font l'œuvre du serpent ancien. Parce que quand on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on ne peut pas faire une autre œuvre que celle du diable. Ça passe par la chair, c'est vrai, mais c'est l'œuvre du diable. Tout cela, c'est un problème donc qui est un problème spirituel. Alors, pour nous, enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que les bonnes semences incorruptibles de Dieu demeurent en nous, c'est-à-dire sa parole, son enseignement, son exemple. Ça doit être devant nos yeux, ça doit être dans notre cœur, ça doit être c'est quelque chose, c'est la chose la plus importante, c'est que la semence de Dieu demeure en nous. Car seules les semences de Dieu se développent sous forme de vertu, sous forme de qualité, sous forme de gestes d'abnégation, de renoncement. C'est uniquement les paroles de Dieu qui peuvent produire ça. Il y a toujours eu des gens qui ont manifesté ces choses. Il y a toujours eu des gens, et on pourrait voir la nature divine chez ces gens-là. Ces gens-là faisaient les efforts nécessaires pour se sortir de la nature inférieure, de la nature animale dans laquelle le monde est baptisé, est immergé. Ils pratiquaient, en fait, la loi de la grâce qu'on trouve dans 2 Pierre 5 à 8. 2 Pierre 1, 5 à 8, je vous le lis. Parce que c'est pour ceux qui disent « Oui, mais on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. » Bien, moi je veux bien, faites comme vous voulez. Moi je lis la parole de Dieu. Hein, j'avais un professeur à l'école biblique qui disait « Lis ta Bible, lis-la bien. » Alors, 2 Pierre 1, 5. Pour cette raison même, on peut dire déjà même avant, sa divine puissance, au verset 3, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Nous avons quelque chose à faire. Non, mais nous sommes sous la grâce, tout nous vient de Dieu, nous on n'a rien à faire. Non, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous, et se développe, vous voyez qu'il ne suffit pas que ce soit en nous, il faut que ça se développe, elle ne vous laisse pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ça veut dire, sinon, il ne vous sera pas accordé. C'est clair. Oui, mais Jésus a tout fait pour nous sauver à la croix, alors donc j'irai dans le royaume de Dieu. Non. Tu dois faire ça, sinon c'est pas. L'entrée n'était pas accordée. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pas. On ne s'amuse pas. C'est pas de la rigolade. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il est aveuglé, c'est-à-dire qu'il croit voir la lumière, mais il est aveuglé. Il voit la lumière, peut-être bien, mais il est aveuglé. Et il est myope, c'est-à-dire qu'il voit à court terme, il ne voit pas à long terme. Vous savez ce que c'est qu'un myope? C'est quelqu'un qui voit les choses tout. C'est comme ça, n'est-ce pas? Mais, voilà. Donc ça veut dire que leur vision, elle est à court terme. Et C'est fini vite. Ils oublient qu'ils ont été purifiés de leurs anciens péchés. Et ça, on en connaît, hein, on en connaît. Des myopes aveuglés qui ont oublié d'où ils viennent et comment ils ont été purifiés de leurs anciens péchés. Bien sûr, au travers du Seigneur Jésus-Christ, mais pas sans les ministères. Et ironie, ces ministères. Il est difficile d'influencer l'immense masse des gens, parce que ce sont des gens qui sont négatifs, qui ne croient pas ces choses, ou qui croient mal dans ces choses, qui ont un évangile simplifié, oui, je suis un peu comme De Gaulle, je dis un machin. Vous savez que De Gaulle, quand il parlait de l'Europe, il disait le machin. Hein, ben voilà, c'est pareil, là, ils ont un machin qui est cousu de fil blanc, une espèce de doctrine à la noix de coco. Et ces gens-là, la plupart du temps, ces belles personnes qui avaient été choisies par Dieu, appelées par Dieu, sont devenues des victimes de ces enragés. Et parmi ces gens qui sont devenus les victimes des enragés, et qui pourtant mettaient en pratique, n'est-ce pas, les choses de la parole de Dieu, pendant un temps, elles ont commencé par l'esprit, elles ont fini par la chair. Pourquoi? Comment elles ont fait? Parce qu'ils se sont corrompus, ils ont apostasié pour pouvoir échapper à la méchanceté du serpent qui influence ce monde. Ils ont préféré apostasier plutôt que de marcher fidèlement et souffrir un peu. Nous avons à souffrir, c'est sûr. Mais ça n'a fait qu'ajouter au mal régnant le fait qu'ils apostasient. Et ces gens qui avaient bien commencé par l'esprit ont fini par la chair et n'ont pas échappé à la loi de la conséquence. Ah, oh, mais Michel, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Eh bien, moi, je vous dis qu'on est dans la grâce, il y a une loi qui s'appelle la loi de conséquence, qui régit tous les actes humains, et aussi ceux des animaux, hein, c'est sûr, mais de tout. Alors, ceux qui n'agissent pas selon la justice du royaume de Dieu, de notre Père Céleste, et de son Fils Jésus-Christ, et l'enseignement des apôtres, cette loi finira par les retrouver tôt ou tard. Et ils seront malheureux ici-bas, même s'ils se repentent. Et ils seront malheureux éternellement, même s'ils se repentent. Parce que ils perdront quelque chose de leur récompense. Pourquoi je dis qu'ils seront malheureux ici-bas, même s'ils se repentent? Eh bien, parce que Dieu est miséricordieux, et il pardonne ceux qui se repentent, c'est vrai, mais la loi des conséquences les retrouvera. Parce que la loi des conséquences, c'est la loi des semailles et des moissons. Tu récoltes ce que tu sèmes, c'est une loi. Alors, vous voyez, les chrétiens un peu superficiels, ils disent, la loi de la semence et de la moisson, c'est la loi, n'est-ce pas, pour l'argent. Il faut semer l'argent, on va récolter l'argent. Voilà, puis ils sont arrêtés là, puis ils sont tout contents. Youpi, tralala, boum, boum, soin, soin. Pas du tout. Regardez Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il n'était pas premier-né, c'était Ésaü le premier-né. Vous vous rappelez de cette histoire? Et puis le premier-né devait avoir une bénédiction spéciale, parce que voilà, c'était comme ça dans l'ordre établi des choses par Dieu. Et puis son père, Isaac, voyait pas très clair, c'était Isaac, voyait pas très clair. Alors sa mère a profité, elle a dit à son fils, écoute, on va te déguiser, et puis tu vas voler, tu vas piquer la bénédiction. Alors, comme Ésaü était très poilu, et puis Jacob ne l'était pas, et il s'est mis un peu des poils de mouton sur les bras, tout ça, il s'est approché de son père l'a touché, et puis il était trompé. Il pensait que c'était Ésaü, alors que c'était Jacob, tromperie. Alors, la mère, je crois, elle s'appelait Rebecca. Rebecca, terrible. Donc voilà, quand la supercherie était dévoilée, le père a dit, moi je ne peux pas, ce qui est fait, la bénédiction est donnée, je ne peux pas la reprendre. Vous vous rendez compte, l'importance de la chose. Donc Jacob avait la bénédiction de son père, c'est formidable, mais il avait des conséquences. C'est-à-dire qu'il a récolté toute sa vie ce qu'il avait semé, c'est-à-dire la tromperie. Il arrive chez son oncle Laban, il voit sa fille qui s'appelait Rachel. Et alors, il tombe amoureux de Rachel et il demande sa main. Et Laban lui dit, d'accord, mais d'abord, tu dois travailler 7 ans pour moi. 7 ans, formidable. Travaille 7 ans. Et au bout des 7 ans, arrive le jour du mariage. Laban, il met un petit peu trop de vin dans le verre de Jacob. Jacob est un peu bourré. Le soir après le mariage, il va se coucher avec sa femme. Et le matin, quand il se réveille, qui c'est qu'à côté de lui? Léa, c'est pas Rachel. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai couché avec Léa, je suis marié avec qui? Avec Léa. Ah bon? Ben oui, je t'ai trompé, là. Conséquence, il a récolté ce qu'il a semé. Et puis plus tard, il a encore été trompé par ses fils, qui, vous savez, vous vous rappelez, le jeune Joseph qui était son chouchou, ses frères l'ont vendu aux Égyptiens, puis ils ont dit, il était bouffé par des bêtes sauvages. Trompé, encore, et encore, et encore. Alors j'entends d'ici les chrétiens évangéliques me dire, oui, mais ça c'était sous la dispensation de la loi. Maintenant c'est fini, les choses ont changé. C'est une loi qui était donnée à l'humanité, mes frères et sœurs, à la sortie de l'arche de Noé, c'est Dieu qui l'a donné à Noé, et c'est une loi qui reste valable jusqu'à la fin du monde. Tout ce que la terre, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront pas. Voilà ce que Dieu dit à Noé. Alors, faut pas prendre que le côté positif. Si je sème de l'argent, je vais en récolter. Si je sème du bonheur, je vais récolter du bonheur. Si je sème de l'amour, je vais récolter de l'amour. Mais si tu sèmes du caca, tu vas aussi en récolter. Eh oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis vous allez me dire, oui, non, mais ça ne me prouve pas que c'est dans la Nouvelle Alliance. Bon, vous êtes pénible. Galates 6.6 nous prouve que cette loi, elle est renouvelée dans la Nouvelle Alliance, parce que dans Galates 6.7, pardon, il nous est dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Point final, verrouillé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui ou non? C'est comme ça. Donc, faites attention. Faites attention, sur le chemin étroit où nous sommes engagés, nous ne pouvons pas faire les choses dont nous avons envie uniquement, et ne pas faire les choses dont on n'a pas envie. Nous devons faire la volonté de Dieu. Par exemple, parler gentiment aux gens, même si on n'en a pas envie. C'est pas facile, hein? Faire un kilomètre de plus pour porter le fardeau qu'on nous oblige à porter, même si on n'en a pas envie. Hein, faire des choses qui sont un peu désagréables, qui sont pénibles et tout, même si on n'en a pas envie, avec une bonne attitude. Parce que sur le chemin étroit, c'est la volonté de Dieu que nous devons faire, et tout ce que nous faisons ou disons, c'est une semence que nous allons récolter. On va récolter exactement ce qu'on a semé, exactement. Alors mes frères et sœurs, il nous faut être forts, il nous faut être soudés entre nous, nous sommes avertis en entrant dans le royaume de Dieu, nous devons cesser d'être sous l'influence de l'esprit qui est dans le monde à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'esprit du serpent, on doit cesser d'être sous cette influence, sinon on va se mettre à critiquer même le royaume de Dieu, c'est-à-dire même l'Église. Ah, oh, mais dis donc, c'est pas juste, hein. Ah, c'est pas normal. Voilà, dans l'Église, vous avez des gens toujours en train de critiquer ce qui se passe dans l'Église. Ils trouvent des trucs pas justes. Et alors, ben évidemment, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit veut supporter même quelques injustices. Enfin, quand même. Ah, mais non, ça doit être parfait. Ah bon? Ben commence déjà par l'être et puis on verra après. Hein? Une personne qui entre dans le royaume de Dieu, dans l'Église rétablie, et qui ne renonce pas au système chaotique de ce monde, sera comme le cyclope de la légende. Vous vous rappelez le cyclope, l'histoire de la légende du cyclope? Le cyclope, c'est un monstre qui a qu'un œil. Hein? Vous avez étudié ça en histoire. Alors, le cyclope était parti en voyage, c'est un peu comme le païen qui part en voyage, puis qui rencontre des chrétiens, il se met à vivre en communauté avec les chrétiens, c'est génial et tout. Il arrive donc, le cyclope, dans son voyage, il arrive dans le monde des hommes qui ont deux yeux. Hein? Pas normal. Il retourne chez lui, il laisse tomber les hommes qui ont deux yeux, il retourne chez lui, et puis il dit à tout le monde, j'ai rencontré des monstres, j'ai vécu chez des monstres, des êtres épouvantables, ils ont deux yeux au lieu d'un. Vous vous rendez compte, hein? Et puis voilà. Nous devons tous aller là-bas, et puis nous devons les attaquer, et nous devons leur arracher leur deuxième œil. Ils sont pas normaux. Voilà. Eh ben, c'est un peu comme ça que ça se passe dans ce monde, et même dans les églises. Dès que vous avez une faculté de plus que la foule, dès que vous avez un talent de plus que le commun des mortels, dès que vous avez un don surnaturel, dès que vous vivez un petit peu au-dessus de la moyenne des ours, par exemple si vous avez un château, hein, on connaît ce que c'est, eh bien les gens s'ils s'en aperçoivent, ben ils veulent enlever tout ça en disant c'est pas normal. Ils veulent détruire, ils ont le goût de détruire ça. Alors moi c'était simple, tout de suite ça a commencé dans les églises et à l'école biblique. Il s'est converti avec les gitans. Quand j'étais à l'école biblique, on ne me faisait jamais témoigner, jamais prêcher, parce que, dans les églises, parce que je m'étais converti avec les gitans, et ça la foutait mal, parce que je racontais, je disais, oh là là, les gitans, puis les pasteurs non-gitans en avaient marre d'entendre ça, donc ils ne voulaient pas, donc, il s'est converti avec les gitans. Deuxièmement, oh, il a eu son premier miracle avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça va être du diable. Ensuite, ah, il est ami avec Osborne, vous savez, l'homme à la perruque avec la moustache comme D'Artagnan. Oh, quelle horreur! Ensuite, il a la folie des grandeurs. Ça fait, vous vous rendez compte que ça fait 26 ans hein, qu'il vit dans un château. Mais quelle honte! Alors qu'il y a tant de misère dans le monde. Ensuite, il croit à l'abondance. Il croit à cet évangile de l'abondance. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Quelle sorte d'évangile de l'abondance je crois? Si vous voulez le savoir, allez écouter mes prédications, vous le saurez, au lieu de critiquer bêtement. Oh, il se fait baptiser pour les morts, quelle horreur, il touche à quelque chose de tabou. Oh, il aime Sylvie Vartan et James Dean. Rions, rions. Oh, il croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais pas à la Trinité. Vous voyez que c'est pas normal, c'est le diable, voilà. Parce que la norme, c'est la majorité. La norme, c'est la majorité. Et nous, les disciples de Jésus, nous sommes la minorité. Et vous voyez, c'est pourquoi il y a des chrétiens qui apostasient, qui rétrogradent, parce qu'ils veulent se fondre dans la norme, dans la majorité. Ils veulent se conformer, n'est-ce pas, au monde présent. Voilà, tout le monde croit ça, alors on croit ça. Et puis c'est comme ça. Et puis quand on est chrétien, on n'aime pas James Dean ni Sylvie Vartan, et puis on se fait pas baptiser pour les morts, ça c'est une hérésie, et ceci et cela, et puis voilà, tout ça. Alors même les dons surnaturels, ça vient du diable, enfin, voilà. Si chez nous il y a des anges qui se manifestent, c'est pas normal, donc ça doit être des démons. Voilà, ils croient plus que c'est possible que ce soit des démons, que ce soit des anges. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Vous voyez cette mentalité? Eh bien, c'est à cela que nous avons affaire en cette fin des temps des nations. Juste avant l'enlèvement, il faut que nous nous serrions les coudes et que nous ne restions pas isolés. C'est cela, être prêt pour l'enlèvement. Ce n'est pas de connaître toutes les prophéties qui parlent au sujet de l'enlèvement. Ce n'est pas de chercher à savoir quelle est la date du jour de l'enlèvement. Non, ce qu'il faut, c'est être un. C'est ça la volonté de Jésus. Soyez un, comme mon Père et moi, nous sommes un. Demeurez dans cette unité. C'est ça la volonté de Dieu. Et agir par l'esprit. En maintenant notre moi animal dans la mort, c'est-à-dire là où il était cloué, c'est-à-dire à la croix. Voilà ce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons avoir la bonne mesure prophétique, morale, et aussi nous devons avoir les bons critères prophétiques et moraux, et les observer. Sinon, nous ne verrons même pas que le serpent se glisse parmi nous. Il faut que nous fassions attention à ça, l'unité, sur la parole de Dieu. Et quand on récolte ce qu'on a semé, si on fait le mal... Eh bien, alors c'est la plupart des gens, ils font ça, ils disent c'est le diable qui nous attaque, hein, ou alors c'est la faute des autres, ça c'est facile, ils ont des problèmes, c'est le diable qui les attaque, et ils ne réfléchissent pas, non, c'est pas forcément le diable, qu'est-ce que vous avez semé? Mais qu'est-ce que vous avez semé? C'est ça? Mais ça, non, c'est une fausse doctrine ça, Michel Jordan, c'est le diable qui m'attaque, tu ne peux pas comprendre, ah ben, d'accord, je ne peux pas comprendre. J'ai passé ma vie à chasser les démons, mais je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai vu des fous possédés, je les ai délivrés au nom de Jésus, mais je ne peux pas vous comprendre, vous. Bon, restez dans votre mélasse, hein, si ça vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je voulais que je vous dise. Ils ne veulent pas croire qu'il y a des lois dans la grâce. La loi de des conséquences, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai lu l'histoire d'un homme, son fils était très colérique. Alors, son père lui dit, écoute, chaque fois que tu vas te mettre en colère, tu vas prendre un clou, puis tu vas le planter dans la balustrade. Alors, le premier jour, il en a planté moins de 50, le gamin, t'es vraiment colérique. Et puis, le lendemain, il a fait un peu mieux, il n'avait plus que 40, et puis ça a été en descendant petit à petit. Un jour, il en est arrivé à dire à son papa, aujourd'hui, j'ai pas planté un seul clou dans la balustrade, je ne me suis pas mis en colère une seule fois. Son père dit, bravo, c'est super, t'as fait des progrès, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller enlever les clous. Alors, le fils, il a enlevé les clous, tous les clous, il y en avait, hein, parce que 50 le premier jour, 40 le deuxième jour, et ça, c'est plein de trous, la balustrade. C'était plein de clous. Alors, quand il a fini, il dit, voilà, j'ai fini. Alors, son père l'a dit, mais regarde l'état de la balustrade. C'est plein de trous, c'est affreux, elle est moche maintenant. Alors, il dit, voilà, c'est des conséquences. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas faire une méchanceté, dire une méchanceté, et puis penser que ça ne va pas laisser de traces. Ça laissera toujours des traces. Donc il y a des conséquences. Et ça, c'est humain, c'est normal, c'est comme ça que ça a été fait. Et vous ne voulez pas, ben, tant pis pour vous, rester dans votre ignorance. Moi, je sais quelle est la vérité, c'est pourquoi je fais attention. Il nous faut maîtriser notre nature inférieure. Notre nature inférieure, les gens disent, « Oh, mais elle est morte, c'est fini. » Paul nous dit qu'il faut la maintenir dans la mort, il faut la maîtriser. Hein? C'est tout. Pour maîtriser notre nature inférieure, il faut agir selon la foi, c'est-à-dire selon la loi de la grâce qu'on trouve dans 2 Pierre 1, 5, 8. Rajoutez à la foi. Faites tous vos efforts pour rajouter à la foi. Pour faire des efforts, pour ajouter à votre foi, vous avez la foi, ça ne suffit pas. Il faut ajouter à la foi. Et puis l'avant-dernière chose, vous avez remarqué ce que c'est? Une fois que vous avez ajouté la vertu, la connaissance et toutes ces choses-là, l'avant-dernière chose, c'est l'amour fraternel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre l'amour fraternel sur la foi, ça ne tient pas. Il faut avoir tout le reste avant. Et puis après l'amour fraternel, par-dessus ce qui vient chapeauter, c'est l'amour. Donc ce qui dit, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Non, il n'y a pas d'amour parce que déjà, il y a la foi, mais il n'y a pas la vertu, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la tempérance. Il y a pas... Comment voulez-vous qu'il y ait l'amour? Alors, mais voyez à quel point les chrétiens sont infantilisé par un enseignement tronqué, etc., etc. Alors, pour maîtriser notre nature inférieure, nous devons agir selon la loi de la grâce, et c'est tout. Et ça demande des efforts, c'est des exercices, des efforts répétés, un peu comme la muscule, c'est des efforts répétés, hein, la gonflette, si vous voulez. Oui, ben n'empêche que ceux qui font de la muscule, qui répètent les mouvements, qui les répètent, quand ils font des squats, ils sont capables de soulever. Combien tu soulevais, Stéphane? 200 kilos. Une fois ou plusieurs fois?
Une fois
200 kilos, mais quand tu faisais des répétitions de 10, tu étais à combien?
150
kilos. C'est de la gonflette, ça, 150 kilos. Vous arrivez à soulever 10 fois 150 kilos? Vous n'avez pas de force? La muscule, ça donne pas de force. Bien sûr que ça donne la force. Faut arrêter d'être bête. Faut arrêter de répéter toujours ce que les gens répètent. La musculation, c'est un vrai sport et ça donne des muscles et ça donne de la force, pas simplement une apparence qui vous gêne. Vous, les gens normaux, qui avez des gros bides, des bras tout et des jambes squelettiques, etc., etc. Je me moque pas de vous. Simplement, je vais vous faire comprendre que c'est par les exercices spirituels, c'est la même chose. Les exercices spirituels répétés, vous donneront de la force. Mais si vous les répétez pas, rien. C'est contraignant. Bien sûr que c'est contraignant. Mais si vous préférez être roulé par le diable, eh ben allez-y, continuez. Moi, je veux être victorieux. Et pour être victorieux, il faut se donner les moyens. Donc, faire des exercices, des efforts répétés, les répéter chaque jour, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, un style de vie. Le premier exercice, c'est celui-là. Pour ne pas être triste. C'est ce qu'on peut voir comme tronche en ce moment. Hein. Pour ne pas être triste, ne vis pas dans le passé. Deuxième exercice. Pour ne pas être inquiet, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Hein. Pour ne pas être inquiet, ne vis pas dans le futur. Troisième exercice, pour être en paix, vis dans le présent. Mais le présent le plus raccourci possible. Si ton présent est difficile, gère chaque instant indépendamment de tout. Par exemple, chez nous, on a un jeune chien. Alors, il n'est pas encore tout à fait propre. Hein, c'est russe. Ouais, il me regarde là. Il n'est pas tout à fait propre. Alors le matin, quand Michou se lève, il y a des surprises des fois. Alors ma femme pourrait faire « Oh, c'est épouvantable, c'est atroce, j'en peux plus, c'est affreux, il a encore fait des trucs partout. » Non. Ce qu'on fait, et ce qu'elle fait, c'est elle le ramasse, c'est pas joyeux, c'est pas rigolo, c'est dégoûtant. Mais elle le ramasse et puis on fait tout ce qu'il faut pour le dresser. Et puis on sait bien qu'un jour ça va finir. Mais c'est par la répétition. Hein, j'ai c'est comme ça. Puis de temps en temps, je ramasse aussi. Hein. C'est affreux, mais bon. Voilà. Eh bien, faire dans le moment présent. Pas se dire, oh, ça va être toute la journée comme ça. Ça va encore être pendant 15 jours comme ça. Mais quelle horreur pendant un mois. Ça risque de durer encore un mois. Non, fais-le là, maintenant, tout de suite. Puis après, tu te laves les mains, puis tu passes à autre chose. Et c'est comme ça pour tout dans ta vie. Le moment présent. Gère chaque instant, indépendamment de tout. Fais tout avec amour dans chaque moment présent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en guerre, mes frères et sœurs. On est en guerre, non pas contre des gens, mais contre l'esprit du serpent. Et, évidemment, de la descendance, de sa descendance, qui se manifeste au travers des gens. Alors, si tu es dans le royaume de notre Père Céleste, et que tu te décides à te réveiller et à commencer à entrer en guerre contre ce serpent, ainsi que contre ses alliés, qui cherchent à entrer dans ton jardin d'Éden, eh bien, tu dois être certain d'avoir les bonnes armes. Et de t'être entraîné, ça ne s'improvise pas. Prends du temps pour t'entraîner avant d'aller faire le mariole à chasser les démons. C'est vrai, mes frères et sœurs. Je dis ça aujourd'hui parce que le serpent ancien attaque les vrais enfants de Dieu. Plus que jamais, parce qu'il sent sa fin qui approche. Israël est attaqué, l'Église de Jésus-Christ est la cible aussi. C'est normal. Et si tu es dans le royaume de Dieu, ne te place pas en victime. Ne te place pas en victime. C'est ce que l'ennemi veut. Parce que quand tu te places en victime, eh bien, il va commencer à s'arranger pour que tu crois que tu es responsable de la chose qui t'est arrivée. Parce qu'en te plaçant en victime, tu te places... T'as pas le... La prestance physique et spirituelle et morale de celui qui va à la bagarre. Et puis il va te culpabiliser. Voilà comment agit le serpent. Regardez en ce moment ce qui se passe en Israël. En Israël, Israël subit tout le temps des attaques du serpent ancien, plus que jamais. Mais Israël ne se place pas en victime. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monde entier, et même certains chrétiens, je dis ça avec, je trouve que c'est scandaleux, le monde entier, et même certains chrétiens, essayent de lui faire croire, de faire croire à Israël qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Alors, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec toute la politique d'Israël, bien sûr. Mais n'empêche que Israël, c'est le réceptacle, c'est l'endroit où doit arriver le Messie, il n'arrivera nulle part. Il est parti d'Israël, il reviendra en Israël. S'il n'y a pas Israël, ben, le Messie ne reviendra pas. Et voilà pourquoi le diable ne veut pas d'Israël et qu'ils ont juré tous les pays alentour de détruire Israël, de rayer Israël de la carte. Mais ils font la même chose avec nous. Ils veulent qu'on soit détruit, ils veulent qu'on soit ruiné, ils veulent qu'on soit abattu, ils veulent qu'on tombe malade, mais c'est pas même les gens, ça vient pas des gens. Disons que les gens sont les réceptacles de cet esprit du serpent, mais c'est le serpent qui fait ça. L'ennemi fait ça à l'Église, il fait ça aux membres de l'Église, à toi, il le fait à toi. C'est à tous les niveaux. Parce que tu es enfant de Dieu, le serpent va t'attaquer, c'est normal. Et le serpent ancien, il a une arme redoutable. Quelle arme? On n'en parle jamais, mais c'est l'arme de la disjonction. Qu'est-ce que c'est ça? Il cherche à disjoindre les personnes, alors que Jésus veut notre unité. Vous voyez? Ne rentrez pas dans ce truc-là. Le serpent cherche à disjoindre les informations et les pensées. Il cherche à rompre tout ce qui est lié dans l'amour. En racontant des mensonges, en faisant courir des calomnies. Le serpent ancien et sa postérité sont le plus grand danger de la famille, de l'Église et de la société. Eh oui, son œuvre, c'est de disjoindre l'amour et l'intelligence. Que les gens soient amour, mais sans intelligence. Même le sida n'a pas fait ça. Hier soir, on a suivi un tout petit moment, parce qu'après on avait ras-le-bol, le sida action à la télévision, avec Lynn Renault, qui n'a pas changé depuis 30 ans. Fou, hein, cette vieille dame. Eh bien, même le sida n'a pas fait des ravages comme ça. C'est fou, hein. L'apparence du serpent ancien, c'est la normalité. Le serpent hypnotise les gens, et même certains chrétiens, particulièrement ceux qui se sont laissés aller à critiquer les ministres de Dieu, ceux qui se mettent à critiquer les ministres de Dieu, ils sont sous le coup de la loi des conséquences. même si ce qu'ils critiquent, si ce qu'ils disent est vrai. Ils n'ont pas à le faire. Ils ont critiqué Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne, ils n'avaient pas à le faire. Abraham avec Pharaon, même qu'Abraham a eu tort en disant « dicte ma sœur », ben c'est Pharaon qui était puni. C'est comme ça. Alors ceux qui s'amusent à discuter entre les portes et à critiquer les serviteurs de Dieu, ben eux, ils vont tomber sous la loi de la conséquence. Disjonction. Ils veulent diviser, eh ben ils seront divisés. C'est comme ça. C'est pas autrement. Alors l'ennemi les hypnotise pour les empêcher de voir clair, pour les paralyser, pour les placer en position floue. Et si l'hypnotisé ne sort pas de sa torpeur, c'est très difficile quand on est hypnotisé de sortir de sa torpeur. Si on se laisse avoir, c'est que l'hypnotiseur qui peut vous délivrer de la torpeur dans laquelle il vous a mis. Vous pensez bien que le serpent va, une fois qu'il vous a eu et qu'il vous a hypnotisé, il ne va pas claquer les doigts pour que vous sortiez de votre torpeur. Non, au contraire, il profite du fait que vous vous êtes laissé avoir pour vous engluer encore plus dans sa vision négative et mauvaise. Eh bien, l'hypnotisé, qui ne sort pas de sa torpeur, il va devenir un être frustré en permanence. En permanence. Parce qu'il va semer des actes et des paroles qu'il va récolter tôt ou tard. Et comme il s'est laissé hypnotiser, ben il en resème, et ça ne fait qu'aggraver sa situation. C'est pour ça que c'est grave, mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons veiller à notre unité. Ah non, je ne veux pas vivre en communauté, ah ben ça c'est certain. D'ailleurs, même nous, on ne veut pas que tu viennes vivre en communauté. Il faut d'abord que tu fasses un travail sur toi. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous comprenez? Et nous qui sommes déjà en communauté. Alors, restons unis, soyons bien soudés les uns aux autres. Le serpent ancien et sa postérité, un jour ou l'autre, ils finiront par apprendre que tout se paye. Ce jour vient, on est bien content. Alors, écoutez-moi bien. Si les gens de ce monde, ou si les chrétiens, ne comprennent pas le chemin qui est le nôtre, ils ne comprennent pas, hein, ils ne comprennent pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez pourquoi ça n'a pas beaucoup d'importance qu'ils ne comprennent pas le chemin qui est le nôtre? Ben, tout simplement parce que ce n'est pas le leur. La postérité du serpent te décevra, te mentira, te fera du mal, te rendra malade. Puis, elle te dira, « Oh, t'as changé !» Oh, t'es triste. Oh, qu'est-ce que t'es ennuyeux. L'autre jour, j'ai été fouillé dans mon, comment on appelle ça, dans mes mails, parce que j'avais 1100 et quelques mails que j'avais pas lus, et j'ai été fouillé dedans pour enlever ce qui était inutile. Vous savez, le genre mail de la FNAC, ou de l'assurance machin, ou voilà. Mais je suis arrivé, je suis tombé au chiffre 69. J'ai plus que 69 mails que j'ai gardés parce qu'ils sont précieux. C'est fou, hein, le tout reste, les machins, ces bêtises, ces trucs de... Mon Dieu, j'ai tout foutu en l'air. Ça me prenait de la place dans mon téléphone, surtout. J'ai retrouvé un vieux mail d'un frère qui dit « Quand je suis venu dans ta communauté, j'ai pas vu Dieu. Mais par contre, chez le prophète un tel, oh, mais quelle grande richesse, quelle grande bénédiction, etc., etc. » Bon, je me dis... C'est bien, et je suis content qu'il ait trouvé. Merci Seigneur. Ça m'a fait un peu mal au cœur, c'est sûr. Puis le temps a passé, quelques mails plus loin. Oh Michel, je te demande pardon, je suis désolé, mais qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie? Ben oui, vous rendez compte? Même mon ordinateur s'en souvient. Et j'ai retrouvé ça hier. C'est terrible, hein, c'est terrible. Eh bien, bon, ben maintenant tout est arrangé, hein, la situation est arrangée. Ce fameux prophète s'est révélé être un faux prophète, un escroc, etc., etc., et tout est rentré dans l'ordre. Mais vous voyez, quand on dit des choses, quand on écrit des choses, tout ça, ça reste, et ça produit des conséquences qui sont malheureuses. La postérité te décevra, te mentira, te fera du mal, te rendra malade, et puis, après, elle va dire... Oh, je trouve que t'as pris un coup de vieux. Ouais, ben oui. Oui, pas qu'un coup de vieux, des coups de vacherie aussi j'ai pris. Alors, cache-toi dans la forteresse. Cache-toi en Jésus. C'est une guerre d'esprit. Cache-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Comment ? Eh bien, je vais vous le dire. Vous vous rappelez celui qui disait ça ? Je vais vous le dire. Ça se trouve dans Galates 6, 6 à 10. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Je vous lis dans une vieille version de 1970. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Vous voyez qu'on récolte. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ah ! Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Alors, c'est vrai qu'on va pratiquer le bien pour tout le monde, mais désolé, moi c'est d'abord ma famille, mes frères et sœurs de la communauté, mes amis proches, puis après ça se dissout un petit peu. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est biblique, c'est ce que je viens de lire. Pratiquons le bien pendant qu'on en a encore l'occasion. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Vous voyez qu'il y a une moisson. Alors, au temps convenable, c'est quand temps convenable? Par exemple, pour le blé, on sait quand c'est. L'orge, l'avoine, tous ces machins-là, on sait. Mais pour les autres choses, on ne sait pas, c'est le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, eh ben, on moissonne. Puis tous les autres vont dire, oh, ben, vous en avez de la chance. Non, simplement, on récolte ce qu'on a semé. Vous voyez? Et ceux qui récolteront les mauvaises choses, oh, mais c'est le diable qui vous attaque. Non, simplement, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est tout. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. C'est-à-dire qu'en faisant le bien, en pratiquant le bien, en semant pour l'esprit, en semant pour Dieu, en semant pour les choses qui sont nobles, honorables, dignes de louange, on récolte la vie éternelle. Ah bon ? Alors moi je croyais que c'était, il faut croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Oui, bien sûr, il faut croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Mais croire au Seigneur Jésus implique croire cette parole-là. Et cette parole-là, que vous trouvez dans la Bible, c'est « Si tu veux la vie éternelle, fais le bien. » « Wow, Michel, t'es sous la loi !» Farpètement, je suis sous la loi de la grâce. C'est pas parce que Jésus est mort pour mes péchés que les lois tombent par terre et qu'elles n'existent plus. La loi de la pesanteur existe toujours. « Ah non, non, on est sous la grâce !» Bon, d'accord, on a tout compris. Voyez, mes frères et sœurs, soyez sensés, intelligents, spirituels, et rappelez-vous toujours que votre ennemi, c'est le diable, c'est le serpent ancien. Je sais pas si c'est pour vos nouilles qui vous embêtent. Eux, ils sont des victimes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous aider à bien saisir ces choses-là et à faire les exercices que nous avons à faire et de persévérer jusqu'au bout, ne pas nous relâcher jusqu'à ton glorieux retour qui ne saurait tarder. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.